Art sacré. Art sacré, une émission présentée par Marie-Madeleine Rey.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Le 1er octobre, l'Église catholique célèbre la fête de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, ou Sainte Thérèse de Lisieux, ou encore Sainte Thérèse de la Sainte Face. La vie de Thérèse Martin, née à Alençon en 1873, de parents très pieux, Louis et Zélie, si elle fut courte, car elle décède à 24 ans, n'en fut pas moins riche, j'ose dire, de petites choses. Elle aimait à inciter ses sœurs carmélites à emprunter la petite voie, V-O-I-E, pour accéder à l'amour immense de Jésus. Dans cette émission qui est consacrée aux arts sacrés, nous allons découvrir une petite œuvre discrète, comme l'était Thérèse, haute de 35 cm, en verre blanc et datée de 1935. L'auteur en est le grand verrier René Lalique. Nous allons y revenir avec mon invitée de ce jour, Jeanne Tornel. Bonjour Jeanne.
Bonjour Marie-Madeleine.
C'est toujours un plaisir de vous accueillir.
Merci.
Alors chers auditeurs, si vous voulez écouter cette émission en ayant sous les yeux la petite statuette de Thérèse de Lisieux, vous tapez Lalique, L-A-L-I-Q-U-E, Sainte Thérèse. Et vous serez en présence de cette très jolie petite œuvre que je vous remercie d'avoir choisie, Jeanne. Alors, pourquoi cette œuvre ?
Alors, comme toujours dans cette émission, je cherche des images du personnage ou de la scène que je dois commenter. Et je fouille jusqu'à ce qu'une œuvre me parle. Évidemment, Sainte Thérèse, on a surtout des photos d'elle, beaucoup de photos, puisque elle est de la fin du siècle, du 19e siècle
souvent
et début 20e.
Souvent prise par sa sœur, Céline.
Tout à fait. Et on a des photos d'elle enfant, où c'est une adorable petite fille, très jolie. Mais les nombreuses représentations que nous avons d'elle, ce sont la statue, essentiellement, que l'on connaît, qui a été produite à 300 000 exemplaires. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, où on la voit tout de suite. Elle n'est pas très, très ressemblante par rapport aux photos. Ils auraient pu chercher cette ressemblance-là. Mais enfin, ce n'est pas le but, je pense, dans l'Église, de faire des portraits ressemblants aux saints. Et puis, il y a d'autres œuvres comme des vitraux, mais qui sont toujours basées sur cette photo que l'on connaît beaucoup de Sainte Thérèse ou sur cette statue. Donc, je n'étais pas satisfaite parce que je me disais c'est pas très original. Et donc j'ai fouillé jusqu'à ce que je trouve cette œuvre de René Lalique qui est en verre blanc et non pas en cristal, car c'est le fils de René Lalique qui a commencé à travailler le cristal. C'est une œuvre toute en transparence, toute en finesse, et qui représente donc Sainte Thérèse qui fait tomber sur la terre une pluie de roses. C'est d'abord, je vous précise la différence entre le cristal et le verre. Le cristal, en général, est beaucoup plus translucide et il a de ça en plus que le verre, c'est qu'on lui ajoute, si ce n'est du plomb, au moins un oxyde ferreux. Et c'est ce qui fait toute la différence. Quand le verre est en fusion, on lui ajoute ce métal qui le rend si fin, si sonnant et si malléable.
Cristallin.
Le cristallin, tout à fait. La différence aussi avec le cristal naturel qui existe.
Cristal de roche.
Le cristal de roche et le cristal de bohème. Voilà. Un petit mot aussi sur René Lalique, parce que ce n'est pas n'importe qui. C'est un monsieur qui est né en 1860, donc qui est presque contemporain de Sainte Thérèse, et qui a travaillé d'abord sur beaucoup de bijoux, notamment pendant la période de l'Art Nouveau, où il a été encore plus novateur que l'Art Nouveau.
Il faudrait peut-être préciser la période de l'Art Nouveau.
L'Art Nouveau, c'est 1900-1920.
Voilà.
Et puis, il s'est mis à travailler sur le verre. Et il a vraiment, il a été un des précurseurs à lancer cette période de l'art déco, avec des flacons de parfum, de la décoration de luxe, des lustres, des chandeliers, des vases, des horloges, des ornements, enfin très variés. Et il a même participé à la décoration, vous le savez tous, de l'Orient Express, avec des panneaux de verre, du paquebot Normandie aussi. Il a même fait des bouchons de radiateurs de capot de voiture. Donc vraiment, ce sont des objets extrêmement recherchés, les objets Lalique. Et Émile Gallet, qui est un autre artiste verrier, ne tarissait pas d'éloges sur René Lalique. Donc vraiment, nous sommes en présence d'un artiste confirmé. Et Sarah Bernhardt, la grande Sarah Bernhardt, cette comédienne inégalable, apportait d'ailleurs des bijoux de René Lalique ainsi qu'un costume de scène qu'il lui avait réalisé. Lalique est représenté dans le musée des arts décoratifs dès 1895, donc c'est vraiment très très précoce. Il a aussi, ça, je vous incite à aller le regarder sur internet, il a réalisé la décoration de l'église Saint-Mathieu sur l'île de Jersey, dans la paroisse de Saint-Laurent, que l'on surnomme l'église de verre. Il a fait les objets religieux, il a fait des grands panneaux lumineux, des statues lumineuses, il a fait un retable, c'est merveilleux. Et il a aussi décoré l'église Saint-Nicaise de Reims, plus facile à aller voir peut-être, où il a fait un crucifix, la porte du tabernacle, le retable, des lampes, deux colonnes lumineuses, des verrières de chœur, la table de communion, l'autel, totalement en verre. Donc vraiment, aller voir ça, c'est magnifique. Et pour cette œuvre de Sainte Thérèse, je reviens à notre sujet principal, cette œuvre de Sainte Thérèse, c'est donc du verre. Le verre, c'est à partir de la silice qu'on le travaille. On le porte à la fusion à une température extrêmement élevée. Et une fois qu'il est en fusion, ça fait une pâte relativement molle et travaillable. Et pour cette œuvre-là, on l'a coulée dans plusieurs moules. En fait, au départ, on fait un projet de ce qu'on a envie de faire, puis on moule autour un moule, et à l'intérieur, on coulera ce verre en fusion, et on le pressera entre ces deux moules pour qu'il adhère bien à toute la gravure qui a été faite à l'intérieur et qu'il représente bien le sujet. C'est un art qui ne permet pas beaucoup de bêtises. S'il y a la moindre bulle, la moindre erreur, on casse, on recommence. Donc là, cette petite représentation, on ne peut pas dire que ça soit une statuette, c'est comme une petite plaque de verre qui fait donc 35 cm de hauteur et elle fait environ 4 cm d'épaisseur. Elle est assez fine parce que 4 cm, ce n'est pas beaucoup. Et sa largeur, quand on la regarde de face, elle ne fait que 7 cm. C'est un petit objet. Il est de 1935 et il est tout à fait dans le style art déco, avec ses formes, avec ses contrastes. Et avec, il a ce style, il reprend ce style néoclassique qui est tout à fait de cette période-là. Sainte Thérèse est représentée très humblement. Elle est debout, elle occupe presque la totalité de la hauteur de cette plaque de verre, de cette dalle de verre. Elle a les yeux baissés, elle a les mains le long de son corps, ouvertes vers nous. Elle est dans la tenue des religieuses carmélites. Alors évidemment, il n'y a pas de couleur là, il n'y a presque pas de couleur. Parce qu'on se rend compte, alors fouiller jusqu'à trouver la bonne photo, l'image de Sainte Thérèse a été recouverte d'une patine bleu clair. Donc, Sainte Thérèse apparaît très légèrement bleutée. Donc, il faut faire attention au fond devant lequel elle va être positionnée. Mais il n'y a que Sainte Thérèse. Sainte Thérèse et les roses qui seront devant elle. Les roses qui sont autour de sa tête ne sont pas bleutées. Elles restent translucide, transparente,
comme du
incolore, comme du verre. Donc, Sainte Thérèse a les yeux baissés. Elle a un visage très figé, qui est tout à fait dans le style art déco, avec des arêtes du nez qui sont bien marquées, plate, une toute petite bouche, des yeux fermés. On la voit vraiment en prière, en accueil, en écoute. Elle est toute droite, ses lignes sont vraiment épurées. Les lignes de son vêtement accentuent cette droiture, cette verticalité.
C'est un visage jeune.
C'est un visage jeune,
un
oui.
Un peu poupin, d'ailleurs.
Sainte-Thérèse est morte à 24
et
ans.
Et oui.
Donc,
elle a de bonnes joues.
Elle a de bonnes joues. On voit quand même son voile, sa cape. Ses vêtements sont légèrement plissés sur les manches, mais le peu de mouvement qu'il y a, ça sera sur son vêtement. Son visage et ses mains sont parfaitement lisses. Son voile a différentes épaisseurs. Alors, direz-vous, comment peut-on voir toutes ces différences dans du verre? Eh bien, parce que si l'on retourne l'objet, il n'y a pas beaucoup de photos de dos, mais si l'on retourne l'objet, on voit que l'image de Sainte Thérèse a été meulée dans l'épaisseur du verre. Ça, avec une toute petite meule qui abrase doucement, doucement, on a réussi à faire que l'image de Sainte Thérèse soit en verre dépoli. Et en dépolissant certains endroits et pas d'autres, on arrive à donner cette lumière, cette différence de couleur, parce que par exemple, le voile sur la tête ne fait pas une grosse masse sombre. On voit les arêtes des épaules qui sont légèrement blanches, donc qui n'ont pas été dépolies. Et sur tout le vêtement, cela se reproduit, parce que là, tout est l'art. Dans la maîtrise, bien entendu, du verre, mais aussi dans la maîtrise de cette sculpture, entre guillemets. Et donc, on voit bien les différences de couleurs, de vêtements, l'intérieur des manches, donc le dessous du voile, la gorge voilée aussi de Sainte Thérèse, oui. Avec des plis.
Les plis de la robe, oui.
Tout ça apparaît alors qu'en fait, il n'y a que le translucide du verre et ce bleuté du personnage. Ce n'est pas une peinture, c'est vraiment une patine qui a été mise et tout est dans le travail de l'épaisseur du verre. Quand on la voit de profil, on voit très bien que cette statuette, cette représentation a été réalisée avec le visage qui avance beaucoup par rapport aux pieds. Elle a été réalisée comme en biais parce que ce n'est pas fait pour regarder trop de haut. C'est fait pour poser sur un meuble, sur un bureau et pour la voir presque à hauteur des yeux, mais de saisir ainsi le fait que Sainte Thérèse nous regarde d'en haut. Elle nous regarde du ciel. Elle s'abaisse vers nous.
Elle est penchée un petit peu.
Elle est un peu penchée vers nous, alors qu'on a vraiment quelque chose, une représentation très longiligne, très longue. Mais il y a ce mouvement qui fait qu'on comprend qu'elle est au ciel. Et cette fameuse pluie de roses que je vais vous expliquer, qui, elle, est présente, qui a été gravée sur le devant de la figurine. Sainte Thérèse a été gravée par l'arrière et les roses l'ont été par l'avant. Et là, on voit cette pluie de roses qui sont pas complètement dans l'art déco. Il y a un petit reste de souplesse de l'art nouveau, mais les fleurs, parce que l'art déco, l'art nouveau, ça ne s'est pas arrêté, bim, 1er janvier, on arrête et on passe à autre chose. Il y a eu encore tout un tas de suites. Et quand on regarde le détail de ces roses, qui ne sont pas du tout identiques les unes aux autres, on voit bien que la façon dont les pétales ont été traités, il y a une rigidité art déco, mais il y a encore la rondeur de l'art nouveau. Sainte Thérèse a donc les bras très légèrement pliés. On sent que les coudes sont collés au corps et les mains sont très légèrement ouvertes vers nous. Alors, est-ce que c'est dans une attitude d'humilité? Est-ce que c'est dans une attitude de recevoir nos demandes, nos attentes ou recevoir les grâces de Dieu dans l'attitude de nous faire tomber ces roses, de nous lancer cette pluie de roses aussi. On peut voilà, y voir plusieurs choses. Elle a autour de sa taille, on le devine, sous la chasuble, elle a son crucifix, son chapelet, qui pend à sa taille et qu'on voit très très bien dessiné, très finement ciselé autour de sa taille. Alors, cette Sainte Thérèse, c'est quand même un personnage exceptionnel. C'est une des rares docteurs de l'Église femme, parce que, et là je vais vous lire la définition de la Conférence des évêques de France sur le fait d'être docteur. Selon la Conférence des évêques de France, les docteurs de l'Église sont, j'ouvre les guillemets, des théologiens auxquels l'Église reconnaît une autorité particulière de témoins de la doctrine en raison de la sûreté de leur pensée, de la sainteté de leur vie et de l'importance de leur œuvre. Jusqu'en 1970, le titre de docteur n'avait été conféré qu'à des hommes. Mais à la suite du Concile Vatican II, des femmes peuvent être proclamées docteurs de l'Église. Il n'y en a eu que 4 pour l'instant, donc vous pouvez toujours travailler à ça si vous avez une vocation. Hildegarde von Bingen, Catherine de Sienne, Thérèse d'Avila et Thérèse de Lisieux. Alors, on est docteur de l'Église, pas comme ça. On est docteur de l'Église parce qu'on écrit beaucoup. Et Thérèse, malgré son jeune âge, depuis son enfance, écrivait. Elle écrivait ce qu'elle ressentait. Elle a eu une foi très intense dès son plus jeune âge. Vraiment toute petite déjà, elle disait de très belles choses au sujet de Jésus. Elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé Jésus. Et je pense que là où elle est, elle continue à l'aimer très, très fort. Et elle dit, il s'agit d'abord de se laisser rejoindre par lui, par Jésus. Aimer et façonner par lui. Son amour est gratuit, celui d'un père pour ses enfants. C'est toujours lui qui nous aime en premier. Et ça, c'est très doux, sachant que, en plus, l'image du père est très importante pour Thérèse, car elle a énormément aimé son père. Elle a perdu sa maman très jeune.
Oui, elle avait 4 ans.
Et son papa était vraiment le deuxième homme de sa vie.
Oui.
Et elle a... L'image du père pour elle, c'est quelque chose qui veut vraiment dire quelque chose. Et elle disait aussi, « Jésus, pour ton amour, j'ai prodigué ma vie, mon avenir. Au regard des mortels, rose à jamais flétrie, je dois mourir. » Car on considère que Sainte Thérèse est morte dans une souffrance, une douleur qui aurait pu être comparable à un martyr. Elle a énormément souffert. Elle est morte de la tuberculose. Et elle avait décidé que de toute façon, elle ne pouvait pas faire mieux que d'offrir cette mort et ses souffrances à Dieu pour notre salut, pour que du ciel, elle fasse pleuvoir une pluie de roses. Sa phrase exacte, c'est « Après ma mort, je ferai tomber une pluie de roses ». Alors cette phrase, qui justifie tout à fait la représentation qu'en a fait la Lique, ce sont, évidemment, c'est l'origine des attributs principaux de Sainte Thérèse, c'est-à-dire bon, la tenue de carmélite, bien sûr, le crucifix. Alors là, elle ne le tient pas dans ses bras, mais on le voit autour de sa taille, avec le chapelet, et cette pluie de roses. On la voit souvent tenant le crucifix dans ses bras, comme un enfant qu'elle chérirait, et un bouquet de roses dessus. Parce qu'à une époque de sa vie de religieuse, Sainte Thérèse effeuillait des fleurs, des roses, pour être agréable à Jésus. Et à la suite de ça, quand elle a été responsable des novices, elle le faisait faire aux jeunes novices qui venaient et elle leur demandait de bien vouloir effeuiller des roses. C'était quelque chose qui se faisait aussi quand il y avait des processions, quand il y avait quand on sortait la sainte chasse et qu'on la promenait même dans le cloître. Les jeunes répandaient des roses. On dit même que parfois le plancher, le sol disparaissait sous les pétales de roses. Et elle disait, Sainte Thérèse, que toutes ces fleurs, c'était vraiment pour le Seigneur. Sainte Thérèse a écrit également des petites pièces de théâtre pieuses destinées à divertir et à instruire la communauté. Elle a également écrit de nombreux poèmes et des chants à Jésus. Je vais vous lire le passage de ses mémoires qui concernent toutes ces fleurs. Elle utilise beaucoup le terme de fleur ou de rose. C'est vraiment quelque chose d'important pour elle. « Je n'ai pas d'autre moyen pour vous donner mon amour que de jeter des fleurs. » C'est-à-dire de ne laisser échapper aucun petit sacrifice, aucun regard, aucune parole, de profiter des moindres actions et de les faire par amour. Je veux souffrir par amour et même jouir par amour. Ainsi, je jetterai des fleurs. Je n'en rencontrerai pas une sans les feuiller pour vous. Et puis je chanterai. Je chanterai toujours. Même s'il faut cueillir mes roses au milieu des épines, et mon chant sera d'autant plus mélodieux que ces épines seront longues et piquantes. Mais à quoi, mon Jésus, vous serviront mes fleurs et mes chants? Ah, je le sais bien, cette pluie embaumée, ces pétales fragiles et de nulle valeur, ces chants d'amour d'un cœur si petit, vous charmeront quand même. Oui, ces riens vous feront plaisir, ils feront sourire l'Église triomphante, qui, voulant jouer avec son petit enfant, recueillera ses roses effeuillées et les faisant passer par vos mains divines pour les revêtir d'une valeur infinie, les jettera sur l'Église souffrante afin d'en éteindre les flammes, sur l'Église militante afin de lui donner la victoire. » Quand on imagine que tout ça a été écrit par une jeune fille, même si certains textes ont été remaniés par sa sœur, par une jeune fille qui est morte à l'âge de 24 ans. Cela montre sa maturité et surtout cette vocation profonde qu'elle a eue depuis toujours. Oui. Cette Sainte Thérèse, moi je vous avoue franchement que je l'ai découverte. Ça ne m'enchantait pas de faire Sainte Thérèse, mais parce que je la trouvais banale en fait, dans son église, toujours la même statue. Et en m'intéressant à sa vie et à ce qu'elle a écrit, j'ai trouvé ça merveilleux. Le père François me disait justement l'autre jour, il a dit « S'il y a deux choses à lire, c'est l'histoire d'une âme de Sainte Thérèse et Saint Augustin. » Donc, oui, voilà, c'est
beau
quand
programme.
Même... C'est un beau programme.
Oui, les petites pièces qu'elle a écrites, c'est principalement sur Jeanne d'Arc.
Sur Jeanne d'Arc.
Et oui, elle était très fervente de Jeanne d'Arc.
Voilà,
oui.
Tout à fait. Et d'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est que... quand elle a été canonisée en 1925, elle a été instaurée comme sainte patronne des missions et sainte patronne de la France, au même titre que Jeanne d'Arc.
C'est ça.
Donc là aussi, on a une reconnaissance. Plus tard, lorsqu'elle a été décrétée docteur en 1997, c'était pour les 100 ans de sa mort. Et en 1925, donc c'était peu de temps après sa mort, quand elle a été canonisée, enfin en 1925, 25 ans, ce qui était assez court par rapport à sa date de décès, quand elle a été canonisée, le pape lui a offert la rose d'or. Alors la rose d'or, c'est un emblème en forme de rose en or, mais encore une fois, voilà la rose qui remercie en général... un vivant.
Oui.
Alors, ça peut être un chef d'État, ça peut être un religieux.
Ou son épouse. Enfin, pas du religieux, mais du chef d'État.
Du chef d'État. Chez les catholiques, bien voilà. Entendu. Donc, en fait, cette rose revient très souvent dans la vie de Sainte Thérèse. Et Sainte Thérèse, vraiment, nous enseigne, nous indique la douceur, la tendresse, la patience, mais aussi cette persévérance dont elle a fait preuve dans sa maladie et dans son désir d'être religieuse. Et ce renoncement aussi, ce renoncement, puisque elle-même, qui avait quatre sœurs, qui étaient toutes les quatre religieuses dans ce couvent, ce même couvent, c'est elle qui était la plus jeune et qui a poussé ses sœurs à la considérer comme une sœur de Carmel et non plus comme leur petite sœur à protéger. Donc vraiment d'une maturité qui est exemplaire, qui est vraiment ça ouvre le cœur d'avoir affaire à des personnes comme ça. Sainte Thérèse, pour être sainte, a dû réaliser quelques miracles. Et effectivement, il y en a des plus ou moins célèbres, mais il y en a un de très célèbre.
Oui.
Qui est le miracle d'Édith Piaf.
Oui.
Entre autres.
Oui, mais il y en a un autre.
Il y en a d'autres. Il y en a beaucoup d'autres. Puisque je crois qu'en déjà très tôt, il y avait plus de 500 pages qui relataient les grâces qui avaient été reçues à la demande à des prières à Sainte Thérèse. C'est une... Donc cette célèbre miraculée de Sainte Thérèse, c'est Édith Piaf. Édith Piaf, enfant, était élevée par sa grand-mère et elle souffrait d'une kératite à l'époque, encore peut-être maintenant. C'était définitif, elle allait perdre la vue. Et Édith Piaf, emmenée par sa grand-mère sur la tombe de Sainte Thérèse de Lisieux, a recouvré la vue, a été guérie de sa maladie. Donc voilà, c'était quelqu'un qu'elle a beaucoup chéri. D'ailleurs, Édith Piaf est restée éternellement fidèle à Sainte Thérèse. Et les poilus de la guerre de 14 aussi se tournaient énormément vers Sainte Thérèse et ont écrit de très nombreuses lettres au pape pour accélérer sa béatification puis sa canonisation.
Il y a eu aussi le retournement in extremis, si j'ose dire, d'un meurtrier qui s'appelait Pranzini.
Tout à fait.
Et qui était anti-religion, etc., qui était droit dans ses bottes en disant voilà, ce que j'ai fait, je l'ai fait, etc. Mmh. Et Thérèse lui a écrit, mais bon, il recevait ses lettres. Hein, mais bon, et le miracle s'est produit au dernier moment, sur l'échafaud. Pranzini était prêt à mettre sa tête sur le billot quand tout à coup il s'est retourné vers le prêtre pour embrasser la croix.
Oui, il y a eu vraiment ce retournement. Bon, ça ne l'a pas empêché d'avoir la tête tranchée.
Oui.
Il avait commis des crimes.
Mais vis-à-vis de Jésus, voilà. Jésus l'a accueilli certainement.
Oh, certainement. Jésus nous accueille tous, j'espère. On parlait tout à l'heure au tout début de la petite voix de Sainte Thérèse. Elle disait, je veux chercher le moyen d'aller au ciel par une petite voix, bien droite, bien courte, une petite voix toute nouvelle. Et cette petite voix, elle a essayé de l'enseigner à ses sœurs carmélites. Et il y a certains groupes religieux qui la surnomment la toute petite ou petite fleur. Donc vous voyez, cette fleur, cette Sainte Thérèse mérite qu'on s'attache à elle et qu'on lise sa vie.
Eh bien, un grand merci Jeanne Tornel pour votre participation à cette émission et cette, je dirais, exégèse de la vie de Sainte Thérèse à travers cette petite œuvre qu'est la plaque ou statuette de René Lalique. Donc, merci aussi à Imanol, qui était à la technique, comme d'habitude. Et merci à vous tous, chers auditeurs. Nous apprécions votre présence derrière nos micros. À la semaine prochaine, même lieu, même heure. Au revoir Jeanne.
Au revoir Marie-Madeleine.
Au revoir à tous.
Au revoir à tous.
Art sacré. Art sacré, une émission présentée par Marie-Madeleine Reille.